Bonjour et bienvenue au balado slash podcast Histoire de s'en jaser avec Rose Tremblay-Fontaine, l'indispensable, et moi-même, Maïté. Mon Dieu, l'indispensable, on dirait que je te donne un nom de chevalier. Fallait bien que je commence à en parler de quoi d'autre, de quoi on va parler avec Hugo Saint-Laurent. On a déjà fait le premier épisode avec Hugo, on parlait des communautés chinoises et asiatiques au Canada et un peu aux États-Unis. Mais là, Hugo, on était rendu à discuter de quoi?
Mais en fait, là, pour répondre cette question-là, ça sera plus clair.
Très précise.
On était rendu à parler de quoi? Ça aurait pu être plus précis.
Avec Rose, l'indispensable.
C'est ça que j'allais dire, je vais prendre mon titre d'indispensable. En fait, on a passé, dans notre contexte historique du dernier épisode, on s'est rendu jusqu'en 1907 à peu près. On est parti de environ 1850-ish, là, autour de ça, jusqu'à 1907. Mais ton travail, il s'échelonne jusqu'en 1923. Donc, il nous restait un petit bout de contexte historique à avoir là, pour bien comprendre, là, finalement, toute l'étendue de la période. Donc, entre 1907 puis 1923, qu'est-ce qui se passe?
Oui, voilà. Donc, juste pour rappeler le contexte de 1907, c'est les émeutes de Vancouver. Donc, ces émeutes-là vont avoir un énorme retentissement international. Et au Japon en particulier, là, la presse écrite va vraiment s'indigner du sort réservé aux Japonais. Ça va être perçu comme une totale humiliation, excusez-moi. mais par contre, le gouvernement japonais, là, en vertu des relations cordiales qu'il y a entre les deux pays, va faire confiance au gouvernement canadien pour bien régler les débordements, bien s'assurer que les Japonais qui ont subi les dommages à leur maison soient dédommagés correctement. Et par la suite, Wilfrid Laurier, le premier ministre du Canada à l'époque, va envoyer son ministre des Affaires étrangères... plutôt le ministre du Travail, excusez-moi, petite erreur, Rodolphe Lemieux, qui lui se rend au Japon.
Rodolphe
Lemieux, qui lui va se rendre au Japon pour conclure une entente là, sur l'immigration avec le ministre japonais des Affaires étrangères, Tadasu Hayashi. Donc, la priorité de Wilfrid Laurier, en fait, là, c'est de garder les relations cordiales tout en limitant l'immigration japonaise pour faire plaisir à ses citoyens canadiens. Donc, il y a une entente qui va être conclue après ça par Lemieux et Hayashi, qu'on appelle l'entente Lemieux-Hayashi, conclue en 1908.
Très originale.
Et qui stipule, en fait, que le gouvernement japonais s'engage à limiter l'immigration de ses sujets à 400 travailleurs maximum par année. Et en échange, le gouvernement canadien accepte de ne pas légiférer directement contre les Japonais, ce qui va être différent du sort des Chinois, parce qu'il n'y aura pas vraiment d'entente avec le gouvernement chinois, parce qu'ils n'ont pas les mêmes relations diplomatiques qu'ils ont avec le Japon en vertu des relations avec la Grande-Bretagne.
Fait que là, les Chinois, finalement, eux, il n'y a vraiment rien qui les protège. Ils n'ont pas de droits, puis ils ne sont pas non plus attachés à un pays qui peut, ben, par sa force, mettons, en ayant gagné une guerre contre un pays occidental comme la Russie, ben, la Chine ne peut pas défendre, en fond, ses ressortissants.
Ouais, exactement. Il n'y aura pas cet impératif de conserver des bonnes relations diplomatiques autant qu'avec le Japon. Ils vont quand même envoyer des envoyés en Chine pour...
Des diplomates.
Ben, des envoyés politiques.
Des envoyés politiques,
oui, mais
c'est juste envoyer
des envoyés,
c'est vrai que ça fait bizarre. Mais ils vont quand même envoyer des diplomates en Chine pour tenter d'en venir à des ententes, mais ça va pas être très 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 concluant.
Mais c'est que finalement, si la Chine n'aurait pas de gros bout du bâton.
Non, exactement.
Du bâton!
Seigneur,
exactement.
Ça part en force.
Mais malgré l'entente qui est conclue en 1908, le gouvernement a quand même passé une loi qui ne mentionne pas spécifiquement les Japonais, mais qui mentionne que tout immigrant se présentant au Canada ne peut seulement venir s'il vient d'un navire qui n'a fait aucune escale et qui vient du pays d'origine de l'immigrant. Ce qui limite extrêmement les voyages transpacifiques par navire qui viennent directement du Japon ou directement de l'Inde, par exemple.
Ben, ça fait que, dans le fond, au final, on doit absolument respecter la limite de 500 personnes par année.
C'est 400 personnes,
400 ouais. personnes par année parce que y a un Japonais ne pourrait pas décider d'aller en Australie, par exemple, d'embarquer sur un bateau australien pour venir.
Exactement. Puis la limite de 400, même là, va peut-être être difficile à respecter parce qu'il n'y a peut-être pas 400 Japonais qui embarquent directement du Japon vers le port de Vancouver.
Mais qu'est-ce sans escale?
Sans escale. Ben, c'est d'ailleurs ce qui va mener à... Il y a un incident là, célèbre, celui du Komagata Maru qui transportait des ressortissants indiens là, qui a été refusé parce que, à cause de ces clauses-là, de la loi, là, en 1914.
Puis c'est quoi qui arrive quand t'es refusé? Tu sais, puis là, ben, je pense à un événement...
Ils te renvoient, en fait, tu peux pas débarquer.
Hein? Ouais. Mais tu sais, parce que je pense au... Puis peut-être que ça n'a pas du tout rapport, mais tu sais, au Boat People, ces personnes-là, c'était une crise humanitaire, elles sont arrivées, puis on les a accueillis. Mais... Puis on, le Canada... Parce que...
Pas toi, chez vous, personnellement.
Voilà. Mais est-ce qu'il y avait des situations comme ça à l'époque? Est-ce que tu as vu ça passer dans les journaux ou que finalement, c'était pas juste des travailleurs puis c'est des gens qui sont juste arrivés? Y avait-tu une immigration qui était comme underground?
Ça, je pourrais pas dire, mais il faut comprendre que cette loi-là qui est mise en place vise spécifiquement l'immigration asiatique.
Ouais.
Donc, ceux qui arrivent d'ailleurs...
Ouais, mais mettons, y avait-tu une immigration... pas criminel, mais...
Illégal?
Merci. Illégal.
Une immigration de réfugiés, mettons?
Ouais.
Probablement pas que j'aie vu personnellement. Okay. Là, j'ai pas rencontré rien qui parlait de ça. Ben, c'est fort possible, là, j'imagine que...
Mais tu sais, c'est complètement l'histoire des personnes, tu sais, puis je le manque guillemets, là, des personnes sans papier. Ça va être tellement difficile là, de faire une histoire de ces personnes-là si...
Ben, ils ont pas de papier.
Ils ont pas de papier. Excusez, on est... L'enregistrement se fait à 8h11, donc si on déparle, excusez-nous. Excusez-nous complètement. Mais reprenons.
Oui, ben dans le fond, finalement, ce que tu disais, là, c'est que ça limite vraiment l'immigration asiatique et japonaise.
Oui, exactement. Puis, il va quand même... Ça n'empêchera pas les tensions de continuer à monter, ça n'empêchera pas les sentiments de se répandre de plus en plus au pays... Et ce qui va mener finalement, le Canada va en 1923, et c'est pour ça que j'ai fini ma période en 1923, parce que pour moi, c'était un événement important qui faisait un peu le cercle, qui fermait le cercle de mon sujet. En 1923, le Canada suit l'exemple que les États-Unis ont pris en 1882 et vote sa propre loi, la Chinese Exclusion Act, qui empêche les Chinois tout simplement d'immigrer, sauf encore une fois les diplomates, les marchands et les étudiants. Donc, 1923, et cette loi-là va rester en active jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale.
Aïe, aïe.
Ouais.
Ouf. C'est choquant.
Moi, j'ai comme perdu mes mots.
Mais, question de curiosité, pourquoi après la Deuxième Guerre mondiale, c'est quoi qui a fait un changement d'avis? C'est qu'on n'a pas de travailleurs, en fond, parce que les gens sont morts à la guerre?
Ben, j'aurais tendance à dire qu'après la Première Guerre mondiale, il y a un sentiment généralisé dans l'Occident pour plus de tolérance avec l'ONU qui est formée. Et ça a certainement dû jouer pour promouvoir les droits de la personne et là, le Canada qui voulait bien paraître dans son rôle de pays pacifique.
C'est la Société des Nations après la Première Guerre mondiale, par exemple.
Non? Après la Deuxième.
La Société
non.
des Nations,
non, moi j'ai parlé de l'ONU après la Deuxième.
T'as dit la Première. Là, je t'ai mêlé.
Je voulais dire la Deuxième.
La Deuxième, ouais. OK. Ouais. L'ONU après la Deuxième.
Parce que la loi est votée en 1923, donc après la Première Guerre mondiale.
C'est ça, OK. Là, je savais pas pourquoi tu commences à parler de la Première Guerre mondiale, là. Mais OK, c'est bon. On est maintenant sur la même longueur d'onde. Donc là, on a fait vraiment le tour du contexte historique. Puis, dans le fond, à travers toutes ces années-là, puis particulièrement, justement, on s'est délaissé autour de 1907, puis on parlait, à la fin du dernier épisode, des stéréotypes qui avaient affecté les Chinois et les Asiatiques en général aussi. Puis, on n'était pas entré dans les spécifiques. Bon, on avait un petit peu parlé de la sexualisation des femmes. On a mentionné le Kama Sutra également, mais sans évoluer là-dessus. Mais là, je me demandais, parce qu'étant donné qu'il y avait beaucoup de travailleurs masculins ici, il y avait des stéréotypes aussi qui les affectaient, est-ce que tu pourrais développer justement sur...
Les stéréotypes,
voilà.
Sur la nature de ces stéréotypes-là, en fait. Mm-hmm. Ouais, en laissant au dernier épisode, j'avais parlé du stéréotype qui était là au début, là, celui donc des travailleurs temporaires, de cette population qui ne contribue pas économiquement, qui n'a pas dans le désir de contribuer culturellement non plus à la colonie. Ce qui est assez ironique quand on utilise leur culture pour les mettre de côté finalement. Mais c'est ça. Une fois que leur présence devient plus présente dans les villes, une fois que les Chinatown se forment, de plus en plus, on va utiliser d'autres stéréotypes qui correspondent un peu à l'image qui avait été reléguée par les gens qui ont voyagé en Chine pendant le siècle passé et qui avaient envoyé des journaux de voyage ou, et qui décrivaient les Chinois vraiment comme des personnes horribles, en fait. Et
donc là, on est passé l'exotisme, puis
ouais, exactement.
Le charme de la exactement. Nouvelle culture, puis on est juste dans le...
Sont horribles.
Sont horribles, c'est dégoûtant la Chine.
Mais pourquoi ils étaient horribles?
Ben, j'y viens. Mais pour résumer un peu comment ils étaient perçus comme une nuisance, lors de la commission de 1884, pendant que le chemin de fer est en train d'être complété pour regarder c'est quoi la situation avec les Chinois, puis qu'il y a la loi qui a été votée après pour la taxe d'entrée, le commissaire Chapleau parle de la présence chinoise comme d'un ulcère qui pourrait être comparé à un morceau de bois logé dans la peau du tissu humain. Donc, ils sont vraiment perçus comme un corps indésirable.
C'est rough.
C'est très, très rough. Et, bon, pour en revenir aux stéréotypes en particulier, l'insalubrité des Chinois était beaucoup mise de l'avant, leur pestilence, donc le fait qu'ils soient... qu'ils aient des maladies qu'ils puissent transmettre et que ce soit eux la source des maux qui sont transmis dans les sociétés occidentales. La déviance sexuelle en est une. Les hommes ne sont que des violeurs qui pervertissent les jeunes femmes. Les femmes sont toutes des prostituées, donc ça va dans les deux sens. La consommation d'opium, le penchant pour le jeu, ce sont tous des éléments qu'on associe aux Chinois et qui vont être utilisés après pour justifier des lois discriminatoires à leur endroit.
Ouf! C'est... Ouais.
Non, mais c'est ça, il y a comme rien à dire, mais en même temps, plein de choses à dire, fait qu'on sait plus quoi dire. Alors...
Puis là, ma prochaine question que j'avais notée, c'était... Pourquoi les Chinois ne voulaient-ils pas rester plus longtemps au Canada? Mais je pense qu'on a répondu à la question.
Ouais, ben, il y a tout ce que j'ai parlé au début, là, que, évidemment, leur famille est restée en Chine, leur vie est là-bas. Ils sont pas venus ici pour s'établir nécessairement, là. Ils sont venus ici pour faire de l'argent.
Je pense que les Blancs leur ont pas donné envie de s'établir non plus.
Non, mais par exemple, à partir du moment où ces sentiments-là deviennent de plus en plus virulents, ironiquement, les Chinois restent de plus en plus, ils sont rendus établis, ils sont dans les Chinatown, ils se sont développés des stratégies économiques divergentes, si on veut, quand même. Donc, ils sont totalement intégrés au pays sans être intégrés dans la communauté.
Oui. Puis, justement, la création des Chinatown, puis, dans le fond, l'exclusion de la société, est-ce que c'est juste, c'était volontaire pour les Chinois de juste se regrouper entre eux, ou c'est vraiment, ça va faire avec aussi que, mettons, il y avait des il n'y avait pas le droit de s'installer dans les quartiers blancs, un peu comme on voit aux États-Unis, entre autres, avec les personnes afro-américaines, les communautés afro-américaines qui avaient des quartiers pour eux, puis la ségrégation, dans le fond, c'est ça le mot que je cherchais.
Oui, justement, il y a une partie de la réponse qui vient du côté que les Chinois, nécessairement, quand tu t'établis quelque part que tu ne connais pas, mais tu t'établis avec les personnes de qui tu te rapproches. Donc, les Chinois, automatiquement, allaient s'installer avec d'autres Chinois, souvent des gens qui étaient reliés par leur famille, par leur clan, parce que l'esprit du clan était très, très fort dans cette région-là de la Chine. Donc, souvent, tu vas te regrouper avec les gens qui font partie du clan. Donc, oui, les gens s'établissaient dans des petites maisons avec beaucoup de monde à l'intérieur parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens. Puis, c'était une façon de pouvoir s'entraider aussi. Mais il y a une partie de la réponse qui vient du fait que le Chinatown, en fait, c'est une création des Blancs qui voulaient garder les Chinois dans des enclaves ethniques pour ne pas qu'ils soient mélangés au reste de la société. Et d'ailleurs, il y a l'historienne K.J. Anderson qui a fait un ouvrage tout à fait pertinent sur le Chinatown de Vancouver, et c'est exactement ça, sa thèse, c'est que les Chinatown étaient en fait autant une construction pour et par la communauté blanche pour exclure les Chinois en fait du pays, mais aussi des villes.
Ouais, mais ça relève de toutes les formes de ségrégation finalement. Ben justement le fait que si les Chinois pouvaient pas ouvrir des écoles comme on a discuté dans l'épisode précédent, ben évidemment Ils vont créer des écoles proches de leur quartier. Après ça, les autres qui vont arriver, ben, ils vont s'établir proche de l'école aussi. Puis, ben, il y a des lieux centraux là, dans la formation des communautés. Ouais. Des écoles, ça en fait partie, mais il y a d'autres, des lieux de culte aussi. Mais tout ça, ça fait en sorte qu'évidemment, ben, les gens se regroupent à certains endroits. Puis, ben, j'imagine aussi que autour de ces quartiers-là, ben, les riches marchands qui viennent, puis tout ça, là, dont on a parlé aussi au dernier épisode, ben, ça offre quand même une espèce de tissu social. Là. Les gens pouvaient se retrouver entre eux pour s'entraider, justement.
Oui, absolument. Puis justement, j'en ai glissé un mot au dernier épisode, mais il y avait des organisations qui étaient créées, là, des regroupements pour subvenir aux besoins des communautés, leur donner certaines institutions qu'ils ne pouvaient pas avoir par le gouvernement municipal ou fédéral ou provincial, ou peu importe. Donc oui, il y avait quand même un tissu social qui était créé dans ces communautés-là. Ces communautés-là n'étaient pas juste victimes sans rien faire de ce qui se passait. Là. Ils se sont organisés pour survivre du mieux qu'elles pouvaient parer. En effet.
Puis ma prochaine question, justement, ça relève un peu du tissu social, ou en tout cas... Mais, tu sais, avec toutes les... On a parlé de tellement de lois sur le travail, de lois sur bon, l'entrée puis tout ça, mais... Au final, si les Chinois ne pouvaient pas travailler nulle part ou s'ils travaillaient à vraiment un salaire médiocre, comment ils faisaient pour survivre au final en Colombie-Britannique? Comment ils faisaient pour avoir un revenu assez stable pour nourrir, comme se nourrir, puis pour les Chinois qui avaient de leur famille ici, ben, nourrir leur famille aussi?
Oui, ben ça, les Chinois ont utilisé des stratégies pour aller investir certains milieux pour lesquels il y avait une demande et que les Blancs ne voulaient pas vraiment travailler. Donc, on parle des buanderies, qui est l'exemple par excellence, mais aussi la restauration, l'alimentation, des commerces, des petites épiceries. Donc, c'est toutes des petites branches là, de services, en fait, que les Chinois se sont spécialisés pour pouvoir faire leur propre vie et subvenir à leurs voisins. Et pour certains, ça marchait quand même bien. Mais d'ailleurs, les buanderies, c'est vraiment un exemple par excellence. Et les buanderies à Vancouver est un cas qui illustre très, très bien comment la ville, la municipalité de Vancouver, a utilisé des lois pour limiter la présence chinoise dans le Chinatown. Donc, les Chinois qui se sont spécialisés dans les buanderies parce que les Blancs n'étaient pas dans ce domaine-là du tout. Ils se sont spécialisés là-dedans dès leur arrivée là, dans la ville. À partir de 1880, il y a plusieurs buanderies chinoises un peu partout dans la ville. Et là, la ville veut que cette présence des buanderies-là se cantonne, en fait, au Chinatown. Donc, ils vont passer une loi qui crée une enclave géographique qui correspond ironiquement aux rues du Chinatown, à l'extérieur desquelles il ne peut pas y avoir de buanderie. Malgré cette loi-là, c'est pas très très efficace. En 1889, 10 des 14 buanderies chinoises se trouvaient hors des limites du quartier. Mais au tournant des années 1900, il y a seulement 2 buanderies encore qui sont dans les limites du quartier chinois, donc ça a pas très 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 été super efficace. Alors on a utilisé d'autres stratégies par la suite. Premièrement, on a rendu la vaccination contre la variole obligatoire pour tous les Chinois qui avaient une buanderie ou qui travaillaient dans les buanderies, alors qu'on n'a pas imposé ça aux autres personnes qui avaient des buanderies. Parce que là, ce qu'il faut dire, c'est qu'avec le développement des technologies à vapeur, les Blancs ont commencé à flairer la bonne affaire des buanderies, à faire des buanderies plus industrielles, si on veut, alors que les Chinois n'avaient absolument pas les moyens d'investir là-dedans, donc ils continuaient à faire leur petite buanderie selon leurs moyens classiques. Là. Donc, on faisait sécher le linge dehors et tout. Donc, là, on leur oblige de se faire vacciner pour la variole.
Puis, j'imagine qu'ils devaient payer pour le vaccin?
Ou l'État ça, c'est pas mentionné. J'imagine que le vaccin leur était juste donné, là. Peut-être qu'ils payaient pour là, ça, j'ai pas, je sais pas en fait.
Mais j'ai l'impression qu'une bonne façon d'empêcher les gens, c'est de leur imposer un vaccin.
Ouais, et de pas leur donner les moyens.
De pas leur donner les moyens de l'avoir. Mais en tout cas, mais je
sais pas. Mais ce serait logique en fait, là, ça m'étonnerait pas du tout. Puis une autre mesure qu'ils ont mis en place, c'est qu'ils ont imposé à toute buanderie d'opérer les dimanches. Mais le travail le dimanche, ben, le respect de ne pas travailler le dimanche, c'est une pratique chrétienne. Donc, les Chinois ne respectaient pas ça, évidemment. Et c'était un moyen pour eux d'aller chercher une clientèle que les Blancs ne pouvaient pas avoir. Alors, en leur empêchant de travailler le dimanche, c'est juste à eux que ça nuit. Ça, c'est certain. Et puis là, je parlais du développement de technologie du nettoyage à vapeur. Donc là, plutôt que de chercher à maintenir les buanderies dans le champ d'attente parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas efficace, ben là, la stratégie a changé. C'est devenu de, je vais le dire en anglais parce que c'est, je vais citer, de « drive Chinamen out of the trade », donc de totalement les mettre dehors de du lavage de linge, là, de la lessive industrielle.
Les mettre dehors du lavage de linge.
Ouais, c'est très mal formulé.
Mm-hmm. Mais dans le fond, leur... tuer leur business, je sais pas comment dire. Là.
Donc là, ils vont passer un règlement pour interdire que le linge soit exposé à l'air libre. Donc là,
ben non.
Les Chinois qui utilisent ces moyens-là pour faire sécher leur linge ne peuvent plus le faire, mais les Blancs qui ont des buanderies qui marchent à la vapeur n'ont pas besoin de faire ça. Donc, automatiquement, les Chinois sont pénalisés. Donc c'est tout le temps des lois comme ça.
Mais qui... c'est bien, je vais le dire, c'est chiant. Excusez-moi,
absolument.
Là.
Je pense que tu peux même dire c'est raciste.
Oui, je pense que j'ai le droit de le dire. En effet. Mais si tu veux continuer, Hugo, vas-y.
Mais
juste...
c'est ça, c'est tout le temps des lois qui vont pas nécessairement dire les Chinois dans la loi, mais qui s'arrangent pour que ça l'affecte seulement les Chinois. Donc, c'est une façon détournée de mettre des lois directement contre eux.
Mais si on parle de détournement, de... moi, j'ai une question. Parlons de choléra.
Oui.
Parce que, j'allais dire, les Chinois étaient peut-être un peu dans la merde, mais elle est peut-être pas correcte, celle-là.
Elle va être expliquée dans quelques instants.
Ouais.
Ben, excusez ma joke de caca, mais Go, peux-tu développer?
Oui, absolument. Ben, c'est ça, c'était
hyper sérieux, tu sais. Moi, je suis comme ma joke de caca. Puis Go est comme... Oui, donc... Mais vas-y, Hugo, excuse-moi.
Ouais, c'était mon deuxième exemple pour parler des Chinatown, comment les lois pouvaient être utilisées pour perpétuer la tradition du Chinatown et perpétuer la misère des gens qui y vivent. Il y a au début, en 1890, dans les années 1890, il y a une importante épidémie de choléra à Vancouver. Donc la population, la municipalité, on vit dans la crainte de cette épidémie-là. Et là, il y a un moment donné, il y a comme deux cas qui sont répertoriés au sein de la population chinoise de Chinatown. Et là, on se dit « Ah, mais ces gens-là, ils sont porteurs de maladies, il y a du choléra, ça doit être de leur faute, c'est eux qui l'ont transmis à tout le monde. » Alors, on va utiliser ce stéréotype-là qu'on leur associe pour déclencher une vaste campagne d'inspection sanitaire dans le quartier de Chinatown. Et là, à partir de là, Chinatown devient une entité à part entière dans la liste d'éléments que les contrôleurs sanitaires ont à inspecter. Donc, au même titre que les égouts, les aqueducs et les maladies infectieuses, Chinatown devient une catégorie dans leur rapport. Alors, directement, là, c'est vraiment une façon de perpétuer cette enclave-là, cette partie de la ville qui est extérieure à la vraie ville, en fait. Et là, c'est les rapports qui vont sortir de ces inspections-là, déclarent le quartier comme une menace pour la santé publique. On recommande que toutes les cabines soient détruites. Et ce qui est très ironique là-dedans, c'est que les rapports ne vont jamais mentionner que plusieurs fois les membres de Chinatown, dont des marchands, ont fait des pressions pour que le quartier soit relié au service d'égout et d'aqueduc, tout le temps sans réponse. Que le quartier soit intégré au service de collecte des ordures, aussi tout le temps sans réponse. Donc, il y a cette hypocrisie-là de déclarer la non-salubrité de ces quartiers-là, mais de ne pas leur donner les moyens pour changer leurs conditions.
Ma joke
de caca n'était pas si drôle que ça, finalement. C'était quand même dans le thème, là, on allait parler des goûts, fait que...
Ouais, c'est ça. Marche.
Là, je vais juste revenir un petit peu au sujet parce que finalement, on est rendu un peu à la fin puis dans l'ère de la conclusion, mais on a parlé beaucoup de plusieurs types de lois différentes qui sont vraiment basées sur les stéréotypes. Je me demandais s'il y avait d'autres lois qui avaient été passées entre 1907 puis 1923 dont tu nous avais pas encore parlé puis qui avaient justement été adoptée pour limiter les droits des Chinois?
Oui, absolument. C'est une très, très bonne question. Encore une fois, et là, ça va plus être à l'échelle fédérale et provinciale, et je vais même aller un peu à l'extérieur de la Colombie-Britannique pour voir ce qui se fait, par exemple, en Saskatchewan, à la même époque. Premier exemple que je vais donner... une petite seconde.
Mais la question, c'est, il se passe de quoi en Saskatchewan?
C'est qu'elle t'a pris ta femme, en fait. C'est ça qui se passe. Bon, Hugo.
Mais qu'est-ce qui se passe en Saskatchewan,
Hugo? Ben, je vais pas parler de l'exemple de la Saskatchewan tout de suite, je vais en parler en deuxième. Okay. Mais le premier exemple va porter sur la consommation d'opium. Il y a, au début du 20e siècle, une grosse crise de consommation de drogue au Canada. Et on va mettre ça un peu sur le dos des Chinois parce que c'est eux qui sont les grands consommateurs d'opium et les grands importateurs d'opium. Donc, on va mettre ça sur leur dos et on va amener ça. Ça va devenir dans la presse, la grosse guerre contre la drogue. Les Chinois vont être pointés du doigt. On va encore plus demander leur exclusion. Il y a des... une madame que je me rappelle plus de son nom. Je vais trouver ça. Donc, ouais, au début des années 1920, il y a Emily Murphy, qui est une militante féministe et une réformatrice sociale, qui va partir une grosse campagne contre les Chinois dans la grosse panique contre la drogue qui se passe dans ces années-là. Et, dans le fond, elle va dénoncer le usage d'opiacés par la jeunesse canadienne, autant les jeunes filles que les jeunes hommes, et utiliser ça pour dire que les Chinois sont en train de corrompre la jeunesse canadienne, qu'il faut absolument les exclure pour plus qu'il y ait de problèmes de drogue au Canada. Donc, le Chinois, qu'elle surnomme Asin, va vraiment devenir le bouc émissaire de cette guerre-là contre la drogue, et à cause principalement des stéréotypes qu'on leur associe par rapport à la consommation d'opium.
Mais j'ai une petite question.
Oui.
Puis c'est sûrement parce que je suis inculte. Mais comment tu consommes l'opium? Tu le fumes?
Ouais. Avec une pipe à opium.
Ah. Fait que tu pouvais pas consommer ça facile, là. Tu sais, c'était pas comme une petite vape que tu te squeezes avant un cours.
Non, en effet.
Ben, j'imagine que c'est ce qu'il y avait de plus proche d'une vape, là, la pipe à opium, ou la pipe en général.
Non, mais, tu sais, les pipes en bois, c'est quand même... Mais c'est pas pour... J'essaie juste de comprendre. Tu sais, parce que dans ma tête, drogue, c'est comme des pills. Mais tu sais, tu pouvais pas prendre des opiacés aussi facilement. Ça prenait quand même une installation puis du budget. Ou c'était facile, comme aller dans une place pour prendre l'opium, c'est comme 5 sous pour 3 puffs, je sais pas.
Ben, souvent, tu sais, ça part quand même d'un fond de vérité. Là. C'est vrai que les Chinois importaient de l'opium. C'est vrai qu'il y avait leur salon d'opium. Là. Les gens allaient consommer de l'opium là-bas. Je suis pas un spécialiste en consommation d'opium. Là, je sais
mais
pas
les
trop,
jeunes Canadiens pouvaient aller dans ces places
oui, absolument, pour consommer. Oui, absolument. Donc, tout ça va mener finalement à une loi, la Opium and Narcotic Drug Act, qui va autoriser la déportation de tout immigrant, qu'il soit naturalisé ou non, donc qu'il soit pas citoyen parce qu'il n'a pas le droit de vote, mais naturalisé en tant que...
Oui, okay, comme sa green card ou quelque chose de même, là.
Donc, n'importe quel immigrant qui est reconnu coupable de vente d'opium peut être déporté. Là, je tiens à dire que
il n'y aura
pas juste des Chinois qui vont être affectés par ça. Ça va servir aussi à déporter des gens aux États-Unis, des Américains.
Mais j'imagine que, puis je m'excuse de te couper, mais au final, n'importe qui peut être jugé, peu importe, là, comme... vendeur d'opium, ça peut être n'importe qui. Comme, je veux dire, tu peux trouver des preuves pour n'importe qui si tu veux vraiment déporter des gens.
Ah ben, j'imagine que oui. J'imagine que le fait de se retrouver en possession d'un peu d'opium, tu peux devenir automatiquement reconnu comme vendeur d'opium.
C'est ça. J'imagine c'est comme une façon... C'est, c'est ça. C'est comme une façon simple de déporter massivement beaucoup de monde.
Ouais, exactement. Là, on parle massivement, on parle de 761 Sino-Canadiens qui ont été déportés entre 1923 et 1932, et ça coïncide avec la passation de la Chinese Exclusion Act. Donc, non seulement les Chinois ne peuvent plus entrer au pays, mais on se trouve des moyens, en fait, pour les faire sortir. Donc, tout ça en même temps, en fait. Donc, cette guerre contre la drogue-là qui a été associée aux Chinois pour des motifs qui peut-être découlaient d'un fond de vérité, mais que finalement ont été utilisés pour pointer une population précise. ça fait partie des moyens utilisés par le fédéral pour empêcher les Chinois de vivre normalement là, au pays.
J'aimerais juste ça faire une parenthèse de caca parce que faut que je concluse. Faut que je concluse. Mais ça peut amener une forte constipation. L'opium, ouais, en plus finalement de problèmes respiratoires et d'un trouble de libido ou du cycle menstruel chez les femmes, selon Wikipédia. Là-dessus,
c'est un excellent remède contre le choléra. Donc,
on devrait, en fait, James Wolfe devrait prendre l'opium. Aurait dû, finalement.
Donc, dans la logique des choses, si les Chinois fument beaucoup d'opium, ils ne
peuvent peut-être pas être...
Ne transmettent pas le choléra, parce que c'est un remède.
C'est ça, c'est un remède. Puis, si ça enlève la libido, ben visiblement, ils vont pas agresser des femmes non plus dans la rue. Tout ça, c'est tellement incohérent, hein, le racisme. qui l'eût cru? continue, Hugo. Je me souviens plus, tu étais rendu, là, je m'excuse.
Pour faire plaisir à Maïté, on va entrer dans le gros sujet de la Saskatchewan.
Saskatchewan. Hein? Bon, ben c'est fait, tout le monde. Vous m'avez entendu chanter sur le podcast. Hugo et Rose sont tannés de l'entendre. Vous l'avez entendu maintenant. Saskatchewan, nous.
Donc, en Saskatchewan, dans les années 1910, il y a un gros mouvement qui est mis en place pour nuire aux activités économiques des commerçants asiatiques qu'il y a dans la province. Ce mouvement-là va être constitué là, de plusieurs groupes d'intérêts variés, là, des syndicats, des patrons, des organisations religieuses, des réformistes sociaux, des groupes féministes. Tout le monde va s'y jeter pour se joindre dans un effort de nuire aux commerçants asiatiques de la province. Donc, dans un contexte où les salaires féminins étaient moins élevés que les salaires masculins, la main-d'œuvre féminine était privilégiée dans ce genre d'industrie de service, restaurant, buanderie, whatever. Les Chinois, on l'a dit, il n'y a pas beaucoup de femmes de présente au Canada à cette époque-là. Donc, les Chinois doivent forcément employer des femmes blanches pour travailler dans leur commerce, parce que s'ils engagent des hommes, ils ne pourront pas être compétitifs avec les commerçants blancs et ne pourront pas vivre de leur commerce. Donc, au moment où on sait ça, la campagne va utiliser le fait que ces travailleuses blanches-là sont utilisées par les Chinois pour dire que les Chinois les pervertissent, que c'est dangereux pour leur santé sexuelle, pour leur dépravation future, pour leur consommation d'opium et leur addiction au jeu, tout ça ensemble. Et on va dire, il ne faut plus que ces Chinois-là soient en contact avec les femmes blanches. On va donc s'arranger pour interdire l'emploi de femmes blanches par des commerçants chinois. Le mouvement va avoir beaucoup de succès. En 1912, le gouvernement libéral de la Saskatchewan adopte la White Women's Labor Law, qui interdit aux employeurs d'origine asiatique d'embaucher des femmes blanches. Donc, à partir de ce moment-là, encore une fois, on a une loi qui ne précise pas particulièrement qu'on vise à nuire aux Chinois dans leur commerce, mais on s'arrange pour qu'ils ne puissent plus continuer à pratiquer leur commerce de façon à être compétitifs dans un milieu qui emploie des femmes particulièrement pour leur salaire moindre.
Puis, ça s'attaque non seulement aussi aux Asiatiques, mais aux femmes.
Aux femmes aussi, exactement. Parce on empêche aussi à ces femmes-là d'avoir des opportunités d'emploi. Là,
c'est ça. Ouais. En tout cas. Mais comme quoi, ça vient toujours en paire, hein, des absolument. Actions de marde. Pas pour ramener le thème du caca, mais...
Puis bon, dans les 7 années qui ont suivi l'adoption en 1912 de cette loi-là en Saskatchewan, les provinces de l'Ontario, du Manitoba et de la Colombie-Britannique adoptent les mêmes lois. Donc c'est un mouvement qui va se propager là, à travers le pays aussi.
C'est vrai caca!
Mm-hmm.
J'ai jamais été si peu fière. Être blanche.
Mais c'est bien parce que ça remet beaucoup en question l'idée que le Canada est un pays pacifique, non violent, qui a toujours bien traité ses étrangers. Et là, on voit que c'est vraiment pas le cas du tout.
Oui. Oui, effectivement. Ben, puis malheureusement, j'ai l'impression que ça aurait été fun d'être pour de vrai un pays comme qui a toujours bien traité et ses résidents et ses étrangers. Mais. On a encore des croûtes à manger, je pense.
Oui, absolument.
On est arrivé pas mal à la fin de ton travail, puis je sais qu'il y a probablement certaines choses que tu aurais voulu mettre dans le travail, mais que que tu pouvais pas parce qu'on a des limites de mots, de pages et compagnie. Donc, avant de qu'on se laisse, je me demandais s'il y avait quelque chose que tu voulais aborder ou juste mentionner, dire il y a des questions qui subsistent là-dessus, puis...
Oui, ben c'est ça, j'en ai parlé un petit peu, là, mais toute cette question-là de l'agentivité de ces communautés-là, en fait, j'aurais vraiment aimé ça m'y attarder plus. J'avais même prévu une petite section dans mon travail pour en parler. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop et que je pourrais pas en dire assez pour que ce soit si pertinent. Donc, j'ai décidé de le laisser de côté. Mais je crois que ça participe un peu de tout ce mouvement-là dans la communauté historienne de remettre de l'avant les histoires des autres communautés que la communauté majoritaire. On pense souvent aux communautés autochtones, de faire une histoire qui prenne leur point de vue en compte aussi. Je pense que ça aussi, du côté des Chinois, de passer outre le fait qu'ils ont été des victimes d'une violence dans tous les aspects de leur vie au Canada, mais qu'ils ont aussi navigué à travers ça pour s'organiser, on en parlait tantôt, pour avoir recours aux tribunaux. Comme je le disais, c'est peut-être le seul endroit où il y avait encore le droit d'être jugé comme des êtres humains égaux aux autres. Et ça, ils l'ont utilisé et dans plusieurs causes à leur avantage. Donc, il y a tous ces aspects-là que j'aurais aimé ça aborder et qui seraient absolument pertinentes pour un travail et que, d'ailleurs, je compte aborder dans ma maîtrise. Donc, pour moi, c'est une belle piste d'ouverture pour alimenter mes réflexions et, c'est ça, justement, là, aborder plus la question dans mes travaux futurs.
Puis je pense que ça ouvre aussi une ouverture pour la fin du balado, parce que ça nous laisse aussi sur des réflexions personnelles sur toutes les communautés marginalisées, puis finalement, leur agentivité, puis leur je sais pas comment le dire, mais leur ingéniosité.
Oui.
Comment elles ont su justement s'adapter à toutes ces situations.
Aussi, tu sais, leur persévérance, peut-être aussi, là, tu sais. Puis aussi, j'ai l'impression que, tu sais, moi, étant de Québec, on allait souvent, par exemple, au Chinatown de Montréal, mais comme on n'a jamais eu l'histoire derrière, finalement, ce Chinatown-là. C'est une histoire qui a besoin d'être entendue, d'après moi, parce que souvent, on passe devant des choses puis on ne se rend pas compte c'est quoi la signification ou peut-être la lourdeur de cette histoire-là, mais
juste penser à cette image populaire dans la culture québécoise du dépanneur chinois,
ouais,
qui est, comme dans le langage populaire, cette idée-là découle de ces enjeux-là.
Pour revenir à ce que tu disais, Maïté, puis pour un petit peu conclure le tout, là, mais dans les prochaines semaines, on va recevoir Augustin Lévesque-Mongrain aussi, puis il va venir nous parler justement un peu du Chinatown de Québec, là, ou ben je sais pas si c'était un Chinatown, mais du quartier chinois de Québec.
C'est une question à débat.
Ouais, c'est ça. Mais du quartier où vivaient plusieurs Chinois et qui étaient conjoints à un quartier où vivaient plusieurs Juifs. En tout cas, Augustin va venir nous en parler dans les prochaines semaines. Ça va être intéressant, là, justement, de pouvoir un petit peu voir le traitement aussi au Québec de ces communautés-là. Donc, sur cette note triste, mais qui amène à plusieurs réflexions sur qui on est, puis d'où on vient, puis c'est quoi la suite, on vous laisse. Puis, à dans 2 semaines pour le prochain balado. Bye, la gang!